religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs.
Tensions, parasites et courants vagabonds. Pour donner la parole à des personnes en lutte contre l'uniformisation de ce monde, le bétonnage des terres et les diverses formes de domination qui s'exercent sur nous au quotidien.
Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous !
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices qui écoutez Radio Saint-Afrique. En ce mois de février, l'émission « Tensions, parasites et courants vagabonds » sera consacrée au carnaval. Cette célébration du retour du printemps, qui se perpétue depuis des milliers d'années, carnaval vient bouleverser le quotidien, renverse tout, tout se transforme, le pouvoir n'existe plus, on se laisse submerger par l'esprit de la fête pour brûler l'hiver et tout ce dont on ne veut plus. Carnaval fait partie de ces rituels qui nous rappellent le cycle des saisons, les expériences passées et présentes, qui structurent la vie de groupe ou de communauté et son lien à la nature. Carnaval revient encore et toujours, avec ses danses, ses chants, ses récits, ses masques. Ces rites qui réaffirment l'identité de ceux qui la pratiquent en tant que groupe, que communauté reliée à un territoire. Depuis longtemps, les différents pouvoirs que l'humanité a connus tentent d'anéantir Carnaval, de l'enfermer, le contrôler, le quadriller, de l'infantiliser, le transformer en un spectacle ou encore en une vulgaire fête marchande. Mais cette tradition résiste et se perpétue. Elle n'a pas vraiment d'origine ni de fin. Elle peut arriver, repartir, être plus forte à un endroit, disparaître ici, reprendre ailleurs. Elle est mouvante et elle s'invente. Depuis l'an dernier, Carnaval est revenu envahir les rues de Saint-Afrique. La rumeur dit qu'il reviendrait encore cette année, le 16 mars. D'ici là, je vous propose de se plonger dans l'esprit de Carnaval avec Marc, qui nous partagera quelques récits sur cette fête. Puis nous irons du côté de Pézenas avec Marie, qui nous fera découvrir leur rituel d'ouverture de Carnaval avec les femmes sauvages. On terminera cette émission par une petite escapade montpelliéraine, où Carnaval subit une certaine répression, qui est de plus en plus forte depuis quelques années. Face à celle-ci, un petit groupe de personnes bien décidées à ne pas laisser tomber les carnavaliers qui se font arrêter a monté un groupe, un comité anti-répression. Ils nous feront part de cette expérience. Est-ce que tu peux me parler de l'esprit du carnaval ?
Là, en deux minutes, non. C'est un peu compliqué de résumer ça. Mais en tout cas, je peux te parler de comment moi je vis l'esprit du carnaval, comment moi j'ai compris cette relation-là que l'homme a mis en place avec la nature. Parce que pour moi, l'esprit du carnaval, il est essentiellement là-dedans, il est essentiellement dans le rapport intime qu'entretient l'homme depuis le néolithique avec la nature et avec le cycle, les cycles des saisons, le cycle du retour de la fertilité printanière que l'homme a longtemps attendu comme une promesse de survie, puisque Carnaval intervient dans cette période qui est la période qui démarre à peu près au début du solstice de l'hiver, où les jours commencent à rallonger et où l'homme épuise ses stocks, puisqu'il n'y a plus rien qui pousse, il n'a plus rien à manger de frais, donc il mange que des choses sèches, des farines, des choses comme ça, et puis qui stocke. Et puis le carnaval intervient en fait dans cette période-là, c'est-à-dire clairement la période où le renouveau doit se faire. Et donc l'homme accompagne ce renouveau et accompagne la nature pour qu'elle se régénère et pour qu'elle lui redonne la vie. Et donc l'esprit carnavalesque, pour moi, il est là-dedans, il est dans ce lien intime que l'homme entretient avec la nature et que l'homme entretient aussi avec ses morts, avec la mort, c'est-à-dire la mort de la nature et la vie de la nature, et donc la mort de l'homme, la vie de l'homme. Carnaval est pour plusieurs spécialistes de carnaval, plusieurs gens qui ont cherché la raison de cette fête, le sens de cette fête. Donc carnaval est aussi ce moment de communication avec l'au-delà, où il y a une porte qui s'ouvre vers l'esprit des morts, vers les morts, et les vivants donc font circuler en fait les âmes des morts et des vivants pour que les nouveau-nés puissent revenir et que les morts puissent s'en aller en paix. Donc l'esprit carnavalesque, je pense, pour moi en tout cas, se situe là, dans ces rapports-là, circulation, de souffle, ce rapport aussi à la sauvagerie, à l'état sauvage, cet état intermédiaire finalement, entre la nature et la culture. Voilà.
Ô mort, qui êtes sous la terre, reposez dans le ventre de notre mère. Je vous invite donc à leur écrire un message, un petit mot à vos morts, et que vos messages s'envolent dans les cieux jusqu'aux portes de nos aïeux. Si tu veux supporter la vie, tu dois accepter ta mort. Dansez, apprivoisez vos pères qui vous enseignent. Regardez, la mort vous ouvre ses bras.
Et durant le carnaval, du coup, il y a plusieurs rituels, notamment la buffatière. Est-ce que tu peux me parler un peu de la buffatière ?
En ce qui concerne la buffatière, c'est un rituel qu'on retrouve dans toute l'Occitanie. Bon, carnaval est un fait européen, très ancien, qui s'est exporté après à travers le monde, bien sûr. Mais bien avant les modèles niçois et vénitiens, qui étaient plutôt des carnavals de riches, de bourgeois, qui sont... emparé de cette tradition populaire, mais qui date en fait du 18e siècle, 17e siècle, donc ils sont assez récents. Donc bien avant ces rituels-là, on retrouve plein de rituels populaires, en fait, encore aujourd'hui dans le Languedoc, qui sont très anciens, notamment cette danse-là des souffles au cul, de la buffatière, les buffettes, le buffoli, les bouffettes en Provence. Bon, voilà, il y a plein de noms différents pour une même chose. Donc c'est un rituel carnavalesque, bien sûr, c'est des jeunes hommes à la base, donc aujourd'hui c'est mixte, donc carnaval évolue avec la société. Donc habillé en blanc, en panel, donc ça symbolise le réveil. C'est souvent des danses de nuit, donc on sort en bonnet de nuit et en pyjama en gros quoi, pour symboliser le réveil de la nature clairement, voilà. En blanc parce que c'est un signe de pureté, donc carnaval c'est un moment de renouveau, c'est un moment où on se purifie, c'est un moment où on va laisser un peu toutes les vieilles peaux, la mue de l'hiver, on va l'abandonner et on va faire peau neuve. Donc le blanc dans carnaval symbolise ça, il y a beaucoup beaucoup de carnaval où le blanc est très très important. Et donc ils dansent, ils forment une ronde en fait, ils se soufflent au cul avec un soufflet, des bouffettes quoi, pour raviver le feu, la flamme. Donc voilà, symboliquement derrière, il y a tout un tas de choses qu'on peut retrouver là-dedans. Ils tournent en rond en se soufflant dans le cul et en chantant une chanson quoi, qui est à peu près la même un peu dans toute l'Occitanie. Il y a des variantes. Nous ici, chez nous, c'est « Et buffosi al que ou la paure vieillo, et buffosi al que ou que n'ai besoin, et buffosi al que ou, et buffosi al que ou. » Alors c'est « Vas-y, souffle-y dans le cul à la pauvre vieille. » La pauvre vieille, c'est l'hiver. C'est cette idée qu'on va féconder l'hiver, voilà, qu'il faut accompagner le cycle de la nature pour que le printemps revienne. Alors il y a d'autres idées derrière aussi, je pense, il y a l'idée de l'inversion, c'est des hommes qui se font souffler dans le cul, donc ils se font grossir le ventre, donc il y a cette idée d'enfantement à l'envers, l'enfantement de l'homme. Il y a l'idée du P aussi, qui est une tradition carnavalesque, le P se retrouve énormément dans le carnaval, sous plein de formes différentes. Dans ce rituel-là, il y a tout un tas de détails, de choses en fait, qui nous rappellent en fait, à ça, à la purification, à l'accompagnement au retour de l'hiver, au souffle printanier en fait. On invoque en fait, le printemps, voilà, en soufflant dans le cul. Et puis c'est aussi raviver la flamme au plein cœur de l'hiver. Il y a une chanson de la buffatière en provençal qui parle de ça, qui dit voilà, si une bande des braves et de juventure avait une grande fieu qui nous brûle, pas où imagina per lui faire pas ça, de prendre des bouffettes à qui nous faire bouffer. On a le feu en nous et il faut qu'on se le ravive. C'est toujours dans cette logique d'appeler le printemps. Voilà, la Buffatière est assez présente en Aveyron, a été assez présente en Aveyron. Témoignages du début du siècle évoquent des buffatières dans les villages pour carnaval, un des rituels majeurs carnavalesques là en Occitanie.
Pourquoi la farine et les œufs qu'on lance au carnaval ?
Ben ça, c'est des resquites, c'est des restes de toujours cette idée-là de purification par la salissure. Alors c'est un peu cavalier, mais il y a plein de carnavals traditionnels, rituels, où la salissure est très importante. Quoi. On va salir les murs, on va salir le village, on va salir les autres. Bon, on salit, il y a plein de formes de salissure. Bon, il y a voilà, la mer, l'urine, beaucoup, très présente à carnaval. Voilà, il y a d'autres formes un peu plus civilisées, on va dire, comme les confettis, qui viennent tout droit des carnavals de Nice et des bourgeois. Donc les confettis, on voit bien comment ça reste pas, en fait. Bon, ça salit par terre, mais ça vient de là. Et la farine et les œufs. C'est des éléments qui rentrent dans la liturgie carnavalesque, puisque c'est des éléments déjà de salissure et puis aussi de confection de la gastronomie carnavalesque. Parce qu'il y a toute une gastronomie autour de carnaval. Voilà, les crêpes, les bugnes, les beignets, voilà, ces choses-là, c'est des choses qu'on mange à carnaval, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui fait grossir le ventre, tout faire avoir des gaz, tout ce qui fait péter, donc notamment les faillots, les fèves, les haricots, tout ça rentre dans la gastronomie carnavalesque.
Tu me disais tout à l'heure que c'est une fête qui remonte déjà à la préhistoire.
Bon, alors moi j'en sais pas grand chose, mais du coup comme ça m'intéresse, je me suis un peu renseigné. Il y a plein de chercheurs donc en ethnologie, en anthropologie, en folklore, qui clairement situent le carnaval à l'apparition de l'agriculture, même peut-être avant. Dans cette dimension où le carnaval c'est avant tout pour eux, en tout cas pour les chercheurs à l'origine, une communication vivant-mort, voilà. Nature vivante, nature morte, l'hiver qui représente la mort, le printemps qui représente la vie, et la circulation des âmes entre la vie et la mort, voilà. Puisque la mort avant était très très présente dans les sociétés, beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui la mort est, La mort est cachée, la mort est taboue, on la voit pas. Pendant des milliers d'années, la mort était au cœur même de la, société, au cœur même des familles, au cœur même des foyers, dans les maisons. L'hiver, on pouvait pas enterrer les morts, on les gardait dans les maisons, donc c'était un contact permanent avec la mort. On mourait beaucoup plus jeune aussi, donc elle était beaucoup plus présente.
La fin de la vida!
La fin de la vie!
La debuto de la supervivencia!
La survivance! Enterrer tes peurs, tu fais l'enterrement. Et toi, si seulement tu osais la regarder en face, cette mort, tu verrais le reflet de ton âme.
Spécialistes là dont je parle là, folkloristes dont Claude Gagnebé notamment, situent l'apparition de ces fêtes à la préhistoire, puisque c'est des fêtes qui sont essentielles à la survie de l'homme, puisque c'est de son lien religieux qu'il a avec la mort et avec la nature dont il est question. Alors ensuite, le carnaval s'est transformé avec l'apparition du christianisme, d'autres rituels sont arrivés. Les chrétiens ont utilisé ces fêtes-là très fortes, les fêtes des fous, les saturnales, tout ça qui avait lieu. Donc on a dit que le carnaval c'était une période, c'est donc du solstice d'hiver jusqu'en gros un peu avant Pâques. Voilà, donc carnaval, ça dure 4 mois en fait. Du coup, les chrétiens ont installé pendant ce moment-là plein de saints, alors c'est de saints chrétiens, ou derrière, qui ont derrière ou avec eux une symbolique carnavalesque. Voilà, de fécondité, ou de guérison de goitreux, enfin de gorge, notamment Saint-Blaise, qui est un grand saint de carnaval. Ici dans la région, mais pas que, aussi en Provence, il est fêté au début de carnaval, c'est début février, Saint-Blaise, voilà, il symbolise, Saint-Blaise c'est un saint patron qui guérissait les maux de gorge, poumons, donc on est bien dans cette circulation-là de l'air, le souffle printanier qu'on invoque. Saint-Blaise, c'est aussi à ce moment-là où il y a plein de fêtes populaires qui parlent de l'ours, du réveil de l'ours, de son hibernation, qui va, en sortant de sa grotte, qui va humer, voir si c'est le moment de sortir, et qui va péter, qui va faire un énorme pet, donc qui va libérer un bouchon de cire qu'il a dans le cul. Donc cet ours-là de la Saint-Blaise symbolise clairement le souffle printanier. Voilà. Donc les chrétiens ont utilisé ce moment-là pour asseoir déjà leur légitimité en Europe dans les débuts du premier siècle de la chrétienté, là, deuxième, troisième, quatrième siècle, et a mis des saints qui symbolisaient des notions carnavalesques, en fait. En commençant par Jésus, qui est un saint de carnaval, c'est celui qui arrive au solstice d'hiver, c'est-à-dire quand les jours commencent à augmenter, quand la lumière recommence à faire surface, quand on va vers la lumière. Donc Jésus arrive dans cette période-là où il y avait beaucoup de fêtes de fous, la fête des fous, la fête des enfants, parce que les enfants étaient un peu des fous, avant qu'on invente le concept d'enfance, qui n'était pas du tout le même. Enfin, voilà. Et donc on utilisait des enfants pour singer les pouvoirs, qu'ils soient religieux ou politiques. Donc à cette période-là, qui est la dernière semaine de décembre. Et donc c'est pas pour rien si Jésus arrive à ce moment-là, si l'enfant naît à ce moment-là, etc. C'est parce qu'avant la chrétienté, il y avait là, pendant cette période-là, les fêtes des fous, les fêtes des enfants, qui sont le début de carnaval en fait. Voilà. Donc carnaval c'est bien une période, c'est pas un jour.
Donc nous, on a vu que le carnaval, pendant des années, il s'est pas fait à Sainte-Afrique, il est revenu l'année passée. Donc est-ce qu'on peut quand même considérer que c'est resté comme une sorte de tradition, d'après toi ?
Alors la tradition, ça se crée, hein. Tradition, en fait, carnaval, partout, là, ça s'est toujours arrêté, ça a toujours repris, après les guerres, les famines, les accidents. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est toujours là, c'est comme un fil, en fait, qu'on hérite, quoi, des milliards et des milliards de gens qui ont été là avant nous sur Terre. comme un fil qu'on hérite de ces gens-là et qui nous parle de comment les gens y vivaient avant cette société capitaliste, production à outrance, où effectivement, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, on peut manger des légumes en hiver, on n'a plus besoin d'accompagner la nature, en fait, dans son renouveau, puisque l'homme a pris la place de Dieu et du coup, peut chauffer des serres en hiver pour faire des tomates. Il n'a plus besoin, vraiment, aujourd'hui, d'accompagner la nature. Donc, on se détache de la nature. Et donc, c'est pour ça que ces fêtes-là, elles ont périclité. Elles sont moins fortes parce qu'il y a plus ce sens. Le sens premier qui est cette impérieuse nécessité à accompagner la nature dans son mouvement. Voilà. Et aujourd'hui, si ça se fait plus, c'est beaucoup pour ça. Et c'est aussi parce que le carnaval a été infantilisé. Donc, quand on parle de carnaval, on parle des enfants qui se déguisent. Alors que ça, c'est un vieux resquit de ces fêtes des fous et des enfants dont je parlais tout à l'heure. Mais en vrai, carnaval, c'est pas du tout une fête des enfants. Pas du tout, c'est une fête très, très importante, très sérieuse. Donc tu dis tradition, la tradition ça s'invente. Donc il y a une légitimité dans le carnaval qui est très forte, c'est-à-dire c'est la légitimité du cycle. Carnaval c'est un moment, je pense qu'il faut le faire dans ce moment-là, et pour avoir cette légitimité-là, par rapport à des gens qui vont venir par exemple comme la mairie, la police qui viennent, vous n'avez pas le droit d'être là sur la place publique, mais si on a le droit, c'est Mardi Gras, regardez, c'est dans le calendrier, c'est évident, c'est comme ça, et c'est comme ça depuis très longtemps, regardez, même si ça se fait plus depuis 15-20 ans, ben, en fait c'est là, c'est Mardi Gras, et la légitimité elle vient de là. Et c'est une des forces de ce rituel-là, c'est qu'il s'auto-légitime tout seul. Alors après c'est compliqué si effectivement ça se fait pas dans le cycle, quoi, si ça se fait un peu après, parce que souvent on voit, on va pas faire carnaval à Mardi Gras parce qu'il fait froid, donc on va le faire un peu plus tard, s'il fera plus chaud. Mais pour moi, on perd vraiment la force du rituel et le sens, la force du sens de ce rituel, si on déplace cette fête. Carnaval, c'est au moment de carnaval, on choisit pas la date de carnaval. C'est la nature qui a choisi la date de carnaval, c'est pas l'homme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce rapport-là, cette communication voilà, entre l'homme et la nature.
Cette nuit glaciale qui fait claquer mes os et réchauffe mes vers, nous voici réunis pour ce rituel de marron.
L'homme, né de la terre, tournera,
retournera à la terre.
Dans certaines villes ou certains villages, ce jour-là, les magasins ferment et tout le monde est présent.
Oui, ça je pense que c'est pareil, c'est des restes de quelque chose où cette fête-là était une des plus importantes, c'était la plus importante dans l'année. Il y avait, c'est des cycles, hein. Il y a Carnaval, Saint-Jean, à chaque fois c'est des passages en fait. Saint-Jean c'est le solstice d'été, passage de la nature. Il y a la Toussaint, c'est des choses qui étaient très importantes je pense et qui, par l'avènement de la société industrielle capitaliste, se sont taries. Parce que c'est un autre modèle aujourd'hui qui est proposé, Et donc effectivement, il y a plein de villages encore ici, dans l'Hérault, même dans le Languedoc, où les carnavaliers se sont investis d'une responsabilité très forte. Donc les magasins ferment, les banques ferment, donc on va retrouver tous les acteurs de la société civile, que ce soit les politiques, que ce soit les gens qui s'occupent des associations, que ce soit même les enfants, ils vont tous être à Carnaval. Alors ces villages, c'est Cournon-de-Terral, Pézenas, à Limoux aussi, c'est très investi. Voilà, il y a un côté religieux, on peut parler de religion carnavalesque dans ces villages-là, parce qu'il y a toutes les données, toutes les caractéristiques d'une religion. Il y a une liturgie, il y a des mythes fondateurs et il y a des rituels. Voilà, donc on peut dire qu'on est sur une religion en fait.
viene Roma, Roma terre e barbari e baiaiari. O doi Roma trebe, o doi o șatri caero, ciuiu iurden. Cai tu te rodes, bach tu iamari, si caf tu dromaro, groma me e enge. Iam-dari-dam-dari-dam-dam-dari, iam-dari-dam-dari-dam, iam-dari-dam-dari-dam-dari, iam-dari-dam-dari-dam.
Vous êtes encore sur Radio Sainte-Afrique. Tension parasite et courant vagabond vous embarquent en dehors de l'Aveyron, à la rencontre de Marie. Alors, où sommes-nous ? On entend des chants, on voit un énorme poulain, des femmes sauvages qui déambulent, une étrange fumée euphorisante, de la paille qui vole, des masques qui dansent. Bienvenue à Pézenas.
Bonjour, alors vous, par chez vous, vous avez des femmes sauvages ?
Oui, les femmes sauvages, elles sortent une fois par an, elles sortent à l'arrivée du printemps, quand on sent que le printemps va arriver. Et donc, traditionnellement, elles sortent des souterrains de Pézenas et elles vont réveiller le Saint Blaise. Saint Blaise, c'est le saint patron de la ville de Pézenas, pour qu'il puisse ouvrir les portes de la ville au carnaval. Mais avant que le saint arrive, elles font tout un tas de frasques. Et comme leur nom l'indique, ce sont que des femmes, et donc gare aux hommes quand elles sortent.
Et comment on les reconnaît ?
Alors, on les reconnaît déjà parce qu'elles sont en bande. Donc, quand on croise une femme sauvage toute seule, c'est qu'elle doit préparer un sale coup dans un coin ou qu'elle rejoint ses copines, ça c'est sûr. Et on les reconnaît parce que les éléments qu'elles ont sur le corps, c'est le cuir, la peau de bête, des lanières, des lambeaux, un peu ce qu'on peut retrouver sur les différents visuels des hommes sauvages qu'on trouve dans le carnaval. Donc le pétassou, les lambeaux de tissu, et puis elles sont masquées. On peut pas savoir qui est sous la femme sauvage.
Et elles débarquent en ville et qu'est-ce qu'elles font ?
Alors elles sont là, c'est une sorte de personnification de la nature, du réveil de la nature, et puis elles sont là pour faire un rituel de fertilité. Parce que c'est la fin de l'hiver, et puis pour réveiller le printemps, il faut bien lui montrer à la terre comment ça se passe, comment on va faire pour refaire des fleurs, refaire des bourgeons et tout. Donc elles se servent de la paille. Donc c'est l'élément qui reste des dernières moissons, c'est l'herbe de l'an dernier qui est encore là. Et elles en jettent partout, elles bénissent la foule par cette paille, donc tout le monde repart avec de la paille partout. Et de cette paille, elles en font un lit. donc un lit douillet, et elles vont rouler un homme dans la paille. Donc il est choisi et il y a tout un rituel de fertilité qui se fait au-dessus de lui pour montrer à la nature comment faire.
Les hommes, en général, ils apprécient ce rituel ?
Alors, il y en a très peu qui sont choisis pour ce rituel, parce que c'est pas fait 150 fois dans la soirée, c'est fait au tout début. Des fois, une fois ou deux, pendant la suite de la déambulation, mais généralement, au départ, ils ont très très peur, ils ont pas envie de venir. Donc, des fois, on a du mal à en convaincre un, parce qu'on va le chercher, on le choisit dans la foule, et puis il se dit « Oh mon Dieu, c'est moi !» Voilà, puis finalement, quand ils en ressortent, ils sont très contents. Donc ça leur fait très peur au début, puis une fois qu'ils sont dedans, bon, on le fait quand même de façon sauvage, mais on l'invite à être dans le jeu, quoi.
Vous êtes nombreuses ?
Alors ça peut varier, parce que bah, justement le groupe des femmes sauvages, le principe c'est que c'est ouvert à toutes les femmes qui se sentent un petit côté sauvage. Nous on fait passer de la communication avant pour qu'il y ait tout un tas de copines qui en parlent à leur sœur, leur grand-mère, leur belle-sœur, leur cousine, leur copine. Et puis on se retrouve, là cette année par exemple, on était 13. L'an dernier je crois qu'on a été jusqu'à 17. Et chaque année il y a toute une préparation, comme ça on se retrouve entre femmes, on fait nos costumes et on prépare nos sales coups en ricanant.
Les femmes sauvages, est-ce qu'elles ont des enfants ?
Alors, les enfants des femmes sauvages, pour l'occasion, ils restent avec les papas. Ils participent à la fête parce qu'ils ont aussi une fonction, les enfants, dans la fête de la Saint-Blaise. Ils sont là aussi pour appeler le Saint-Blaise pour qu'il sorte, parce qu'il y a tout un rituel d'appel et de chant. Et après, comme la fête se continue dans les rues de la ville où on va chercher les clés de la ville pour ouvrir la ville au carnaval, ils ont aussi une fonction systématique qui est qu'à chaque capitoule, à chaque chef de quartier, donc il y en a trois, on va leur demander la clé et donc l'autorisation symbolique de rentrer dans la ville avec carnaval. Et donc les enfants sont là aussi pour crier après les capitouls, leur réclamer la clé. Donc tout ce rituel-là est vraiment mis en place avec les enfants. Ils ont même plus besoin qu'on les guide, ils savent déjà qu'il faut demander la clé.
Capitoul, tu nous saoules !
Capitoul !
Cette fête de carnaval, ça fait longtemps qu'elle se fait chez vous ?
Alors le carnaval lui-même, oui, il existe depuis toujours à Pézenas. Il se déroule vraiment le Mardi Gras, donc les magasins ferment, les collèges et les écoles aussi, et il se passe le carnaval. Et quand le carnaval passe, tout le monde y est, avec le poulain de Pézenas. Donc c'est derrière la musique et derrière le poulain de Pézenas. Par contre, la Saint-Blaise, il a fallu la relancer. Donc c'était une fête traditionnelle qui avait lieu il y a 100 ans en arrière. Il a fallu la relancer parce que cette fête d'ouverture du carnaval n'existait plus. Donc là, je crois que ça va faire la 8e année qu'on relance la chose. Et puis ça a bien bien pris maintenant, vraiment. Quand les gens pensent à carnaval, ils savent que ça commence à Saint-Blaise et que ça va jusqu'à carnaval.
Où est-ce que vous avez retrouvé en fait les informations sur Saint-Blaise ?
Alors ce Saint-Blaise, il nous a été soufflé à l'oreille par Claude Alranc, donc qui est auteur de théâtre, dramaturge, théâtre occitan, et qui avait fait quelques recherches et avait retrouvé ce rituel-là des différents quartiers qui allaient se faire bénir par Saint-Blaise pour que Carnaval rentre dans la ville. Donc après, nous, on s'est réapproprié ces recherches-là pour en faire une trame un peu plus théâtrale. Et on a décidé d'investir la population dans la fête. Ces recherches se sont recoupées avec d'autres recherches justement sur les différents sauvages qu'on trouve dans le carnaval. À la base, dans la première Saint-Blaise qu'on avait faite, il n'y avait que les corporations de métiers et de quartiers qui étaient représentées. Et nous, il nous manquait un élément qui puisse faire cœur et qui puisse représenter cette nature qui se réveille. Donc on est allé chercher dans tous les imaginaires de sauvages qu'il y a dans tous les carnavals, qui représentent à la fois cette nature, à la fois qu'on craint, à la fois qu'on a envie d'aller se frotter contre. Donc on est allé justement se frotter à l'ours de Prat des Moyaux. Moi, je suis allée aussi au Pays Basque où ils ont une tradition d'hommes sauvages. Grosse tradition d'hommes sauvages. Juste à côté de chez nous, on a Cournon-Terral, avec les paillasses qui, pour le coup, représentent bien le côté sauvage de l'humanité. Voilà, qui se rembourrent de paille aussi, donc c'est pas pour rien la paille aussi qu'ils s'en servent. Donc voilà, on est allé fouiller en fait dans toutes ces différentes traditions pour aller en puiser quelques éléments qu'on retrouve dans notre Saint-Blaise et qu'on retrouve notamment avec le rituel de la paille, avec le fait qu'on soit masqué ou qu'on ait un rabat sur le visage pour qu'on ne soit pas reconnu. Ça, c'est vraiment le truc type des sauvages de carnaval. Et puis, le fait qu'il y ait à la fois cette joie et cette crainte quand les sauvages arrivent.
Il paraît que le carnaval est une malversation.
Et alors, il y a plus d'hommes sauvages que de femmes sauvages, si j'ai bien compris tes propos.
Ah oui, dans la tradition populaire, c'est l'homme sauvage. Même quand c'est des ours, c'est des ours mâles. Donc voilà, c'était un peu pour renverser les choses. On s'est dit, tant qu'à faire, à carnaval, tout est inversé, alors pourquoi pas des femmes sauvages? Puis en plus, le groupe que nous sommes, là, le Théâtre des Origines, Pézenas, on est vraiment beaucoup, beaucoup de nanas. Et autour de nous, il y a une grosse, grosse énergie féminine. Donc on s'est dit, pourquoi pas à carnaval, pour les festivités de carnaval, refaire monter la fertilité et la folie de la fête, mais de façon féminine.
Et du coup, tu m'as parlé tout à l'heure des animaux totémiques, est-ce que tu peux en toucher deux mots?
Oui, oui, y a une grande, grande tradition dans le Languedoc-Roussillon et en Hérault d'animaux totémiques. Donc ce sont des animaux totems qui sont portés par toute une bande de joyeux drilles. Donc ici à Pézenas, par exemple, ce sont les amis du poulain qui portent le poulain de Pézenas, et qui est le meneur du carnaval. Donc dans certaines villes, c'est vraiment l'animal qui mène le carnaval, dans d'autres, il sort pour le 15 août ou pour une autre fête, quoi. Et donc autour de ces animaux, il y a tout un tas de légendes, et dans certaines légendes, on dit que ces animaux totémiques étaient les passeurs d'âme, que le meneur qui est devant l'animal et qui mène son animal, ça serait l'Hermès, qui mène les âmes depuis le monde des morts au monde des vivants, et qui amène les âmes des enfants à naître, et qui repart avec l'âme des morts. Donc nous, dans la Saint-Blaise, on ne pourrait pas faire Saint-Blaise sans le poulain de Pézenas, par exemple. Donc à la toute fin du rituel, après le rituel de la paille, après la sortie de Saint-Blaise, après le fait qu'on ait récupéré les trois clés, on va réveiller le poulain pour lui dire « ça y est, carnaval peut arriver et peut rentrer dans la ville ». Donc on finit systématiquement la fête par la musique du poulain, le rituel.
Peuple de la terre, bienvenue! Ce soir, encore une fois, nous allons accomplir un rituel pour dire au revoir à Sinistre Hiver et bonjour, messieurs, bon printemps. 5, plaise.
Grâce à lui, nous allons guérir trois clés. Et alors, la fête pourra commencer.
Comment les gens civilisés, enfin l'arrivée de la sauvagerie dans la civilisation, se faire sentir chez vous?
Les gens participent parce que de toute façon, ces sauvages arrivent avec toute une musique et tout un imaginaire qui leur fait du bien à la fin de l'hiver. Ça fait bouger et puis généralement, c'est un mélange de crainte et d'envie de participer, quoi. Quand on arrive, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc la civilisation accepte momentanément ces sauvages, mais je pense que ça doit en soulager plus d'un quand on rentre dans nos tanières.
Par chez vous, certains ont attrapé la carnavaline, qu'est-ce que c'est?
Alors la carnavaline, c'est le virus du carnaval. C'est faire attention parce qu'on peut l'attraper vraiment très très facilement. Et c'est aussi le nom d'un bûcher. Donc le bûcher de chanvre qui avait lieu sur une place à Pézenas qui s'appelle la place Canabasserie. Et donc c'était le quartier du chanvre, le quartier des tisserands et des gens qui faisaient du tissu. Et il restait des chutes, il restait des bouts de non utilisés, des tiges de chanvre. Et la légende dit que chaque année, une fosse était remplie de ces chutes, qu'on y mettait le feu, que ça faisait une épaisse fumée blanche. et que le poulain de Pézenas venait s'y mettre dessus. Donc on dit qu'ensuite, de cette fumée remplissait toute la carcasse du poulain et que le poulain pouvait ensuite partir dans les rues de la ville, complètement fou, pour aller diffuser le virus de la carnavaline. Donc on a gardé ce rituel et on l'a remis dans notre Saint-Blaise. Et à la fin de la Saint-Blaise, il y a une bénédiction du poulain par Saint-Blaise, une bénédiction très carnavalesque bien sûr, et un bûcher de carnavaline encense le poulain et la foule pour vraiment que cette carnavaline se diffuse dans toute la ville. Donc attention à vous, parce qu'il paraît qu'il y a même des fumées de carnavaline qui sont venues jusqu'en Aveyron. Et m'est avis que cette carnavaline s'est transmise à quelques enfants sauvages par chez vous.
On est toujours sur Radio Sainte-Afrique, mais on change de ville. C'est le son de la batucada qui nous guide à travers les ruelles. On entend aussi les fifres, une foule qui danse à travers la ville. Nous voilà à Montpellier, pour le traditionnel rassemblement de Mardi Gras, place du Pérou.
Il n'y a pas longtemps, il y a eu le carnaval à Montpellier. Est-ce que c'est quoi un peu l'esprit de cette fête-là ?
L'esprit du carnaval à Montpellier est assez différent de ce qu'on peut trouver dans des grandes villes comme Rio, Nice ou Venise, où c'est hyper organisé et tout ça. À Montpellier, il y en a eu un de ce type-là, mais dans les années 80, qui a été arrêté. Et en fait, dans les années 90, des étudiants, des squatteurs, des occitanistes un peu, ils se sont dit que ce serait bien de relancer un défilé. Et du coup, pendant quelques années, ils ont fait un défilé qui était organisé comme ça. Et puis petit à petit, ils ont plu la rue. En général, c'est très variable selon la température, s'il pleut ou pas. Il y a aussi parfois des petits articles de presse alarmistes la veille qui peuvent dire « Oui, attention, il y aura le carnaval, sortez pas de chez vous », des choses comme ça, mais ça n'empêche pas les gens de venir et de revenir d'une année sur l'autre.
Il n'y a pas d'organisation centrale, il y a eu quelquefois des réunions de préparation pour des groupes de gens, mais il y a tellement plein de gens qui participent, il y a un rendez-vous qui est fixé chaque année à la même heure, quoi. Ça, c'est la chose, ouais, Mardi Gras, 19h au Pérou. Les gens ont conscience de ça, maintenant c'est devenu une sorte de tradition en fait. Je sais pas, un peu, en quelque sorte quoi. Et spontanément, des groupes de potes vont faire des chars, vont se motiver à préparer des trucs, des ballons de peinture, des déguisements, des batucadas. Et ça tourne chaque année, il y a des nouveaux, je sais pas, des nouvelles personnes qui préparent des trucs. Genre là, cette année, il y a eu un nombre impressionnant d'affiches. Plein de gens qui spontanément vont afficher. Plein d'affiches différentes qui sont réalisées.
Ça se renouvelle d'année en année, ce qui est aussi assez remarquable parce que Montpellier, c'est une ville étudiante où il y a un énorme turnover de des gens qui partent dans d'autres villes et qui arrivent chaque année. Et c'est pas quelque chose de gagné, forcément. Et donc, parce que quelqu'un qui reste qu'un an à Montpellier peut penser que ouais, ça s'est fait une fois, mais ça se fera pas la fois d'après. Surtout qu'en général, quand il y a eu les flics, et ben, les gens ils peuvent se dire « Bon, ben, en fait, les flics, ils vont pas laisser faire le carnaval. » Et en fait, ben, chaque année, moi, c'est limite une surprise renouvelée de voir que non, il y a toujours plein de monde, il y a toujours...
Ouais, c'est un truc qui se perpétue et qui est... On peut appeler ça. Ouais, une sorte de tradition.
Tout début des années 90, il y avait un carnaval officiel, donc qui était animé par le comité des fêtes de la ville, des corporations, avec des chars beaucoup plus gros et impressionnants qui se promenaient en ville et tout ça. Et donc c'était hyper encadré. Et ça se passait pas le jour de Mardi Gras, c'était en général les week-ends. Mardi Gras avait toujours sa petite spécificité
de bataille lycéenne. Effectivement, le Mardi Gras, à la sortie des classes, ça partait en bataille de farine, d'œufs. Mais du coup, voilà, vers 4-5 heures. Donc ça, c'est un truc qui a été réprimé. Donc au tout début des années 90, notamment sous prétexte de débordement. Et donc du coup, ils se sont mis à fouiller les sacs, à interdire voilà, tout transport de farine, d'œufs et avec des arrêtés municipaux. Et ensuite, il y avait le défilé un autre jour et même retrouvé des articles de presse qui disent « Bon, bah, maintenant, ils nous mettent le carnaval en avril en attendant de faire Noël peut-être un 14 juillet. » Enfin bref, il y a une volonté déjà à un moment donné d'éloigner les deux choses. Et puis finalement, ils ont arrêté le carnaval officiel. Donc ils ont tout simplement coupé les subventions au comité des fêtes pour ça. Et ça, c'est vraiment en 90-91. Et c'est aussi une époque où Montpellier se prétend être la surdouée, une ville hyper dynamique, attirante et tout ça. Et donc ça rentre dans tout un processus où ils ont fait fermer tout un tas de bars-concerts. C'était une place qui était hyper dynamique à Montpellier en termes de tous les groupes de rock alternatif de cette époque-là qui tournaient beaucoup dans le coin, etc. Donc ils ont fait fermer pas mal de lieux. Ils ont éloigné aussi les endroits où il pouvait y avoir la fête. Donc ils ont créé la salle Victoire 2, le Zénith. Donc tout ça pour éloigner du centre-ville et lancer une opération de réhabilitation du centre-ville qu'ils appellent l'opération Grand Cœur, où petit à petit, finalement, la population est changée, quoi. Il y avait beaucoup de gitans, des gens qui passaient leurs soirées dehors, faisaient des grillades et tout ça. Et ça, bon, bah, maintenant, c'est définitivement disparu. Mais effectivement, ça ne s'est pas fait sans heurte. Et donc, du coup, au-delà de simplement la répression du carnaval, c'est-à-dire on envoie les flics à une certaine heure, vers 1h du matin, puisqu'on a dit que les bars devaient fermer à 1h du matin. Hop, s'il y a des gens qui traînent encore dehors à ce moment-là, et il y avait effectivement beaucoup de gens qui traînaient dehors à 1h du matin, étant donné que le bar ferme, donc tout le monde sort, il y a encore des épiceries de nuit qui restent ouvertes. Donc il y avait la fête jusqu'à 3-4h du matin, plusieurs fois par semaine. Et donc à partir du début des années 2000, il y a eu volonté vraiment que tout le monde aille se coucher à 1h du matin dans le centre-ville. Et donc, à l'occasion du carnaval, comme les autres jours, quoi. Et donc, ça a donné lieu à tout un tas d'histoires de répression, que ce soit au carnaval, à la Saint-Patrick, des jours où il y avait vraiment particulièrement de monde dans la rue. On a vu voilà, des œils crevés par des flashballs, des coups de matraque, des procès pour outrage, rébellion, parce qu'évidemment les gens ils sont pas contents et puis en plus ils sont bourrés donc ils font n'importe quoi et donc ils se font arrêter, ils insultent les keufs, ils leur jettent des trucs dessus. Et donc depuis plus de 10 ans maintenant, voilà, y a une grosse répression dessus, mais sur le carnaval, mais comme tout, en fait, toute la vie nocturne qu'il peut y avoir.
C'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé.
Face à cette répression du carnaval, qu'est-ce que vous avez tenté ou est-ce que vous avez essayé de faire des trucs ?
Mais il y a 2 ans, il y a eu un carnaval justement où ça a bien chauffé. Les flics ont chargé, je sais pas, il était 10h30. Et il y a eu 8 interpellés donc pour feu de poubelle, outrage, violence sur agent. Enfin, et il y a eu un nombre conséquent d'amendes, je crois. Il y a plus de 1000 euros d'amende et de frais de justice. Et du coup, dans les jours d'après le carnaval, il y a eu des réunions pour s'organiser ensemble puisqu'on considérait que c'était... Ça aurait pu être nous ou n'importe qui se fasse arrêter. Suite à ça, on a organisé un concert qui a réuni pas mal de monde, qui a permis à la caisse de tourner, de payer les amendes. On avait aussi l'idée de diffuser des conseils sur des pratiques pour éviter que les gens se fassent arrêter ou qu'il y ait eu pas mal d'informations diffusées dans ce sens-là.
Et du coup, cette caisse anti-répression, elle existe encore aujourd'hui ?
Elle est en fonctionnement. Alors après, il y a plein de fonctionnements différents possibles. Et c'est vrai que c'est fonctionnement... Où, comme beaucoup de nouveaux collectifs qui se créent, il y a toujours des frictions entre des gens qui ont des cultures beaucoup plus organisées et d'autres qui ont des cultures beaucoup plus horizontale et spontanée. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas... Au départ, on avait un fonctionnement peut-être avec des réunions souvent, parce que ça, le besoin s'en faisait sentir toutes les semaines et tout ça. Et puis, quand on se retrouve dans des situations où bah, il n'y a pas d'argent à sortir, où il n'y a pas... Bon, de trucs spécifiques à faire et plus ouais on est sur des fonctionnements qui sont beaucoup plus spontanés donc avec une liste mail si on ressent le besoin de se voir on se voit bon par exemple moi je sais que et tout le monde le sait j'aime bien imprimer des brochures donc du coup ben dès qu'il y a quelque chose où j'estime qu'il peut y avoir l'infocus de l'anti-rep, je le dis simplement, je le signale aux autres, mais il n'y a pas besoin de faire de réunion pour le valider. Voilà, hop, il y a l'infocus que là, cet après-midi, il est sur la fac parce qu'il y a des gens qui veulent tracter pour faire une manif ou pour le carnaval, et ben, il y en a certains qui pensent à ramener du sérum physiologique, des compresses, ce genre de choses, parce qu'on sait qu'il va y avoir une répression, et donc du coup... Voilà, en cas de gaz lacrymo, etc. Et ben, on pense à voilà, venir, et puis après, comme on est quand même pas mal de gens à se connaître, hop, on dispatche ça à plein de gens, en espérant que ça puisse rendre service et servir lorsqu'il y a la répression. À quoi je pense, il y a aussi le téléphone, on a mis en place un... donc il y a la liste mail, mais il y a aussi un téléphone d'urgence qui existe. Donc s'il y a vraiment besoin de se voir... parce qu'il y a notamment des expulsions de squats, ça a été assez souvent utilisé pour ça, mais aussi des rassemblements. Bah, ce téléphone, il permet de prévenir pas mal de monde rapidement. Et voilà, on a quelques outils comme ça, et puis après, quand il y a des gens qui veulent organiser des concerts et donner des sous à l'antirépression, bah, ça se fait aussi assez naturellement.
Il y a des outils qui sont mis en place, genre la caisse qui sert à payer des amendes ou à envoyer des mandats aux gens en tôle. Il y a le numéro de téléphone avec un numéro de téléphone d'urgence. Du coup, il y a ce côté-là d'avoir des outils qui nous permettent de répondre à la répression et de réagir facilement et collectivement. Et après, il y a aussi cette envie-là de faire des trucs ensemble et de mieux se connaître et qu'on ne diffuse pas juste des pratiques, qu'on les expérimente entre nous, quoi.
Par rapport à la caisse anti-répression, comment vous choisissez à quelle personne vous allez donner de l'argent ou pas?
Et généralement, c'est au cas par cas. Enfin, on n'a pas de... Ça a été un débat pendant longtemps. Quelle que soit l'infraction, en fait, on discute ensemble de si on peut ou pas, si c'est justifié ou pas, quoi. Mais il n'y a pas de truc, enfin, il n'y a pas de règle, en tout cas. Je sais pas, on a envoyé des sous pour des gens qui étaient en tol pour violence sur agent, des gens qui étaient en tol pour avoir fait des conneries. Que ce soit des condamnations politiques ou moins politiques, entre guillemets, quoi.
On n'est pas forcément pour cette distinction-là. Par exemple, le carnaval, ça n'a rien d'un mouvement social, quelque part. Donc, de toute façon, dès le départ, on est, à mon avis, sur quelque chose qui n'est pas politique. Là où ça devient politique, c'est que cette fois-là, spontanément, il y avait 30 ou 50 personnes devant le tribunal pour soutenir des copains, parce qu'ils avaient arrêté presque une dizaine de personnes. Il y avait plein de gens qui étaient allés spontanément devant le tribunal pour soutenir et machin. Donc, ça devient politique à ce moment-là parce qu'il y a... Il y a une union, mais sinon, les infractions en tant que telles, c'est des infractions hyper banales et qu'on voit tous les jours et dont on ne peut pas dire qu'elles sont pour des raisons politiques ou pas. Le tri, il se fait plus, comme il dit, au cas par cas, parce que faut qu'on ait les sous si on nous demande des sous. Si on a la motivation, on va faire des concerts de soutien, des tables de presse, des cafés, des machins pour avoir des sous. Et donc, du coup, aussi, ce qui est politique, c'est le fait que des gens s'adressent à nous ou pas. Et je vois cette démarche-là, surtout d'entrée de jeu. Je dis, s'il y a quelqu'un qui choisit de s'adresser à une caisse, c'est que peut-être il estime, lui, que ça l'est, qu'il n'a pas envie d'avoir à faire face tout seul à la répression et au système judiciaire. Et je pense que c'est là que c'est intéressant. D'abord dans la démarche de la personne qui vient vers le collectif, plus que dans qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu l'as fait pour des raisons politiques ou pas.
Qui c'est qui est très gentil?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang?
Très méchant.
l'économie.
Les gentils.
Et qui gaspille son argent.
Les méchants.
Qui c'est qui vend des fusils.
Les gentils.
Qui c'est qui se retrouve devant.
Les méchants.
C'est comme à Guignol, spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie.
Les gentils.
Pour qui t'as un gros penchant.
Les méchants.
C'est travail, famille, patrie. Les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Ils font l'amour le samedi. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Ils crèveront le cœur content, les méchants. Les gentils méchants.
C'est ainsi que s'achève l'émission Tension Parasite et Courant Vagabond. Merci à vous d'être restés à l'écoute. Merci à tous ceux qui m'ont accordé un peu de leur temps pour partager leurs connaissances et leurs expériences carnavalesques. En intermède musical, vous avez entendu la fanfare Graioli, la buffatière repris par la Talvera, ainsi que des extraits sonores du carnaval de Pézenas. Pour vivre carnaval et ne pas faire qu'en parler, on se retrouve au carnaval des enfants sauvages de Sainte-Afrique. Ce sera le 16 mars, rendez-vous à 16h sur le pont Vieux, pour brûler l'hiver tous ensemble. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Tension Parasite et Courant Vagabond sur les ondes de Radio Sainte-Afrique. Celle-ci sera consacrée au thème du contrôle social. Oh, you little.